Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Comment redonner confiance aux jeunes quand leur quotidien est sombre et l'avenir incertain? Nos deux invités aujourd'hui sont au quotidien, au contact des jeunes. Ils nous révèlent leurs secrets d'éducateurs chrétiens. L'espoir est une force, petit manuel pour trouver la lumière quand tout va mal. C'est le tout dernier ouvrage du frère Benjamin, prêtre salésien et directeur de collège en Normandie. Bonjour frère Benjamin.
Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
Avec joie, en studio, Yaël Jeanblanc, responsable de l'animation, de la prévention et de la pastorale aux apprentis d'Auteuil et animatrice en pastorale à l'aumônerie de Villefranche-de-Lauragais, près de Toulouse. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci, merci à vous deux d'être là ce matin. Alors, dans vos missions respectives, vous accompagnez des jeunes à découvrir qui ils sont et ce qu'ils sont appelés à devenir. Cette découverte de soi n'est pas évidente à l'heure des réseaux sociaux. Comment les aidez-vous à mieux se connaître? On commence par vous, Yaël Jeanblanc.
Oui, et oui. Alors, c'est vrai que vous avez mis tout de suite le doigt sur un sujet, les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui, pour eux, fait partie de leur vie. Et ils y sont au quotidien dessus. Et ils n'ont d'image d'eux-mêmes que souvent à travers les réseaux sociaux. Mais justement, ce qui est important par rapport aux jeunes qu'on peut rencontrer, c'est de leur montrer qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais eux, quelle est leur beauté à eux, quel est le sens profond de leur vie ici sur cette terre, et surtout, est-ce que quelque part, ils sont d'accord avec tout ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux? Moi, ce que je vois, c'est que, bien sûr, quand on discute en groupe, ils en parlent, mais dès qu'on est en individuel avec eux, ils ont vite un jugement qui est très juste, en disant quelque part, c'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Et ça, au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Toute la difficulté, c'est qu'il y a le regard des autres. Et moi, je trouve que je porte un regard d'espérance sur les jeunes, parce qu'à partir du moment où on voit qu'en eux, ils ont ces racines de la vérité, eh bien, tout est possible.
Frère Benjamin, comment vous les aidez-vous à mieux se connaître à l'heure des réseaux sociaux?
Ah oui, voilà. Moi, je les côtoie hors réseaux sociaux en tant que directeur d'un petit collège là en Normandie. Je les côtoie au quotidien et comment en fait je passe beaucoup d'heures dans mon bureau d'écoute et à travers 1000 questions. Enfin, moi, je suis toujours curieux un peu de tout de manière générale et donc je vis ça aussi dans les échanges que j'ai. Et à force de questions, en fait, eux-mêmes prennent plein. Il y a plein de choses dont ils prennent conscience à travers, en fait, notre curiosité, notre passion pour leur vie. Et c'est comme ça que se dessine un petit peu une connaissance de soi. Puis après, j'ai évidemment quelques outils, d'ailleurs, que je cite dans le livre, qui permet un petit peu de se rendre compte de la diversité des psychologies, des tempéraments, etc., pour s'apercevoir que tel tempérament, j'ai tel tempérament, d'où ça vient, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est inquiétant, etc. Enfin voilà, réfléchir un petit peu sur notre propre personnalité, je trouve que c'est une étape importante dans la croissance du gamin.
Et c'est vrai que dans l'ouvrage qui vient de sortir, dont vous êtes l'auteur, frère Benjamin, vous donnez des petits conseils qui paraissent tellement simples, mais évidents, se reconnecter à la nature, écouter et obéir à son moi profond, à sa conscience. Et là, vous utilisez un mot qu'on n'utilise plus tellement, en fait.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est là, par rapport à ce que disait Madame Jeanblanc, c'est exactement ça. C'est qu'on vient les rejoindre dans une vérité dont ils ne sont pas forcément si déconnectés. Ça, en tout cas, pas plus que les adultes et que nous-mêmes, parfois. C'est-à-dire qu'en fait, on est assez forts, nous, les humains, pour nous créer des masques et finir même par croire aux masques. Souvent, les gens disent « Oui, ça, mais ça, c'est parce que c'est un masque. C'est le masque du sourire alors que tout va mal ou je ne sais quoi. » Mais ce masque-là m'inquiète pas plus que ça, parce que généralement la personne elle est pas dupe, elle sait qu'elle va pas bien et elle sait que c'est pour pas faire peser aux autres qu'elle porte le masque du sourire. Mais il y a d'autres masques plus subtils qui fait que on ne se voit pas, on ne se vit pas, on ne se regarde pas en vérité. Et donc tout l'art d'un éducateur, à mon avis, c'est de venir amener le jeune sur des parts de vérité qu'il n'ose peut-être pas voir en face. Mais il faut y aller tout doucement parce qu'il y a des parts de vérité qu'il n'est pas encore prêt à voir aussi.
Oui, ça peut être
Voilà.
douloureux, effectivement. Oui.
Ouais.
Yaël Jean-Blanc, quand le frère Benjamin parle de voir justement ces parts de vérité, comment vous les accompagnez à faire finalement la clarté sur eux-mêmes, hein?
Alors, je pense que il peut y avoir un petit peu des outils qui existent. C'est vrai qu'il y a des parcours estime de soi qui sont très intéressants et qu'on propose aux jeunes. Alors, c'est sûr que ça fait pas très fun pour eux quand on leur dit projet estime de soi, coaching, on essaye de trouver des mots. Mais à partir du moment où ils rentrent dans ce projet, c'est quelque chose qui les révèle. Et c'est essayer de leur faire intégrer trois dimensions, c'est-à-dire que c'est d'où je viens, moi qui je suis et mes projets, mes rêves. Et qui je suis, moi j'ai toujours, vous savez, quand vous posez à un jeune la question, donne-moi trois tes qualités. C'est terrible. En début d'année, quand on fait ça avec les jeunes, trois qualités, mais un
C'est
bon nombre,
difficile.
c'est très difficile. Par contre, si on fait quelque chose en groupe et où on va dire, écoutez, voilà, je vous distribue des post-it et vous allez mettre. Alors, il faut pas faire ça la première semaine, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, ou en aumônerie quand on s'est déjà vu plusieurs fois, c'est vous allez écrire trois qualités de chacun de vos camarades. Vous allez les écrire et ils sont très justes pour les autres. Et c'est de les amener à voir que les autres voient leurs qualités. Donc eux, ça leur fait un bien de dingue. Parce que, comme ils disent, c'est une dinguerie cette histoire, j'aurais jamais cru. Mais après, quand ils regardent tous ces post-it, ils se disent, mais oui, c'est vrai, c'est quelque part, c'est moi, et je n'ose pas voir en moi la beauté qu'il y a. Pourquoi? Ben parce que aussi, tout simplement, il y a beaucoup de fois où ils ont entendu des choses négatives. Vous savez que la psychologie, c'est pas mon corps de métier, mais on dit qu'il faut 10 paroles positives pour faire effacer une parole négative. Donc ça, c'est aussi important, le groupe et ce que révèlent les autres de moi et de mes qualités, de ce que je porte de beau et de bon et de bien en moi. Et chaque jeune, mais moi, c'est une conviction profonde que j'ai, même entre guillemets, le jeune le plus déjà raboté par la vie, celui que on se dit, mais ouais, c'est pas possible, quoi. Mais il a en lui cette beauté, cette bonté, et elle demande juste, il faut nous. C'est le travail du petit agriculteur, c'est de gratter un petit peu, d'enlever les
D'enlever les
mauvaises
mauvaises
herbes,
herbes.
voilà,
Ouais.
et de permettre à cette plante de pousser. Mais vraiment, moi, c'est une de mes convictions profondes. Chaque jeune a en lui cette bonté et cette beauté.
Je vous ai entendu acquiescer, frère Benjamin.
Ah ben oui, mais j'en parle dans le livre en disant qu'à chaque fois qu'on pose la question, quelles sont les qualités, c'est je sais pas.
Ouais,
C'est
c'est ça.
la grosse sainte phrase, je sais pas. Mais justement, c'est aussi un des aspects que je développe, c'est aussi le manque de. En fait, j'ai quand même un petit passage, on ne se refait pas. Hein. Pourtant, je ne suis pas de formation directeur de collège, mais enfin bon, je suis fils de prof, et puis je pense que j'ai toujours été assez studieux. Et donc, je montre combien l'enjeu des cours de français, et même des cours, j'évoque aussi les cours d'art, de musique, tout ce qui contribue à développer un véritable vocabulaire pour mettre des mots sur nos mots, mettre des mots aussi, et je donne même des listes dans ce livre de qualités, des listes aussi d'émotions. Pour qu'on soit pas toujours sûr lorsqu'on demande à un jeune comment ça va, bien, et ça, voilà. Et comment tu te sens, ça va. Voilà, enfin, qui puisse apprendre de plus en plus à déployer des mots qui rendront davantage compte de leur vérité intérieure. Donc ça aussi, c'est tout l'enjeu, ben, du coup, de l'instruction aussi.
Oui, c'est ça. Et alors, vous écrivez, frère Benjamin, dans votre livre, une petite phrase qui m'a un peu surprise, parce que ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude. Vous dites, pour apprendre à mieux s'aimer, en fait, s'aimer soi-même n'est pas forcément un prérequis pour aimer les autres. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ça, parce que ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude.
Ah ben, tant mieux, c'est il y a un petit côté provocateur parce que à mon avis c'est quand on dit s'aimer soi-même, c'est pas très loin de ce que je déploie, mais moi j'explique qu'en fait l'expression même aimer soi-même, en plus du fait qu'elle n'est pas spécialement raccord avec la parole de Dieu,
Bah, aimer son
elle
prochain
est
comme soi-même, quand même.
eh ben comme soi-même, c'est pas s'aimer soi-même, c'est le prochain qui est comme soi-même. Donc c'est aimer son prochain tant qu'il est un autre soi-même. Il n'y a pas lieu, par rapport à la traduction hébraïque, d'imaginer que que ça signifiait qu'il fallait s'aimer. Mais aimer son prochain en tant qu'un autre soi-même. Bien entendu, on peut supposer que si on aime son prochain en tant qu'il est un autre soi-même, c'est qu'il y a un rapport à soi qui est positif. Mais c'est un peu un raccourci, quoi, mais en revanche, ce que je développe davantage, c'est la capacité, pas tant, parce qu'en fait, l'amour est toujours altérité. C'est aussi pour ça que, en fait, ce que je viens de dire là, ça s'appuie aussi sur tout simplement la conception de l'amour dans le christianisme. L'amour est altérité. Si Dieu est trinité, c'est précisément parce qu'il est toujours altérité, il est toujours ouverture à
Relation.
autrui. Voilà. Il y a pas, c'est pas, le Père aime le Fils aime le Père, mais, voilà. C'est pas forcément une idée que le Père s'aime lui-même ou je ne sais quoi, c'est que justement il y a une circulation d'amour. Et bon, bref, ça c'est un peu compliqué, mais juste pour revenir à des choses concrètes, c'est que Jésus nous apprend très bien, on le voit notamment dans le passage avec l'apôtre Pierre, à se laisser aimer, à se laisser aimer, à se laisser servir, ce qui est une notion un peu plus ouverte. Moi, je sais que j'ai un petit passage de ma vie où je me souviens avoir vécu un peu comme un diktat de coaching, de développement, de s'aimer soi-même, en sachant que de toute façon, j'y arrivais pas, en tout cas à l'époque. Par contre, là où je pouvais progresser, c'était accepter que les autres puissent m'aimer, accepter que les autres puissent me dire merci, accepter que les autres puissent me complimenter, puissent me faire un cadeau, etc.
Ça, c'est un chemin.
Voilà, ouais. Et je trouve ça plus ouvert. Et puis ça rejoint, pour terminer, le fameux, parce que je l'évoquais à l'instant, le fameux passage avec le lavement des pieds de Jésus, où Jésus, donc Pierre se rebiffe. Ah non, tu me laveras pas les pieds. C'est moi qui dois te laver les pieds. Voilà. Et Jésus dit, si tu ne te laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. C'est éblouissant ce passage, puisque en plus Pierre répond. Avec beaucoup d'humour, bah dans ce cas-là, non seulement les pieds, mais tout le reste. Et en fait, c'est ça, voilà, c'est savoir accueillir l'amour, ça, je trouve que ça resserre mieux l'enjeu, je trouve. Voilà.
Oui, Yael Jean-Blanc.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit le frère, parce que moi, il y a une phrase souvent que je dis aux jeunes, c'est je suis, tu es digne d'être aimé. Où tu vas te mettre sur ta glace, dans ta salle de bain, je suis digne d'être aimé. Tous les matins, tu te dis ça. Je suis digne d'être aimé. Et moi, il y a une phrase de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup et que j'ai mis dans l'oratoire qu'on a dans l'établissement dans lequel je travaille. C'est ce verset d'Isaïe. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et ça, c'est une phrase qui parle à tous les jeunes, parce que se sentir aimé, c'est exister. Et on a tous, même des jeunes qui n'ont aucune culture religieuse, qui sont même d'autres confessions, qui ne connaissent pas Dieu, quand on leur parle, en fait, quand on leur parle d'aimer et d'être aimé, il y a une ça répond à un besoin profond en eux. Et moi, je vois des jeunes qui viennent quand on leur dit ça, quand on leur dit, tu sais que tu as du prix à mes yeux et je t'aime, mais il y a quelque chose qui s'éblouit en eux. Il y a quelque chose de l'ordre dans leur regard qui est alors à la fois très étonné, mais en même temps, c'est quelque chose qu'ils savent au fond, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils ont besoin d'aimer et d'être aimés. Et ça, moi, je rejoins tout à fait c'est vrai que c'est plus facile pour eux de peut-être de se laisser aimer. S'aimer soi-même, c'est compliqué. C'est vrai. Pour un jeune, c'est compliqué quand il a déjà un parcours un peu cabossé et puis qu'il ne s'apprécie pas. Le moment de l'adolescence, on ne s'aime pas, on n'aime pas son corps, on n'aime pas ce qu'on. Voilà. Mais par contre, de leur dire qu'ils ont cette capacité à être aimé, moi, je t'aime tel que tu es. Ça, c'est super important. Moi, souvent, je leur dis aux jeunes, tu sais, moi, je t'aime tel que tu es. Et l'oratoire, c'est comme chez McDo, c'est venez tel que vous êtes. Mais en plus, c'est gratuit et c'est bien meilleur. Mais voilà.
Oui. Comment faire Oui, Frère Benjamin, vous vouliez rebondir?
Mais peut-être juste souligner qu'aujourd'hui, je remarque toutes ces histoires d'harcèlement dans les établissements scolaires, mais en fait qui existent à plein pot dans le monde des entreprises, etc. En fait, on est justement à l'antithèse de l'amour inconditionnel. On est toujours dans un jugement, une critique. Donc, du coup, ça formate les gens à ne pas imaginer qu'ils soient aimables tant qu'ils ne correspondent pas à un certain nombre de critères. Donc ça, on est vraiment là, en bataille, en bataille sec. Et c'est pour ça, tout ce que vous avez dit, évidemment, j'ai souscrit. D'ailleurs, mon premier livre s'appelle « Tu as du prix aux yeux de Dieu ». Et donc, voilà, c'est un enjeu capital. Hein. Ouais, ça, dans la mentalité d'aujourd'hui, l'amour se mérite forcément. Donc, du coup, en vérité, même, il faut admettre que même le salut en Jésus-Christ, même le fait que Jésus nous sauve, c'est pas en nous targuant de nos bonnes actions qu'on l'a gagné, ce
Oui, il n'y a
salut.
pas
C'est
de
gratuit.
méritocratie. Oui.
Voilà, c'est ça.
Comment faire prendre conscience aux jeunes de l'essentiel de leur vie, de ce qui les rend vraiment heureux? Comment vous arrivez à faire passer ce message et cette réalité qui quand même les fait grandir aussi?
Oui.
Oui. Frère
Je ne sais
Benjamin?
pas qui. Oui. Il y a un chapitre tout à fait là-dessus parce que c'est évidemment capital. Et le chapitre est le fruit de ce que je dis au quotidien. Donc,
Bien
au
sûr.
quotidien, j'essaie de les faire réfléchir sur quels sont les moments les plus. Il y a presque. Où il peut y avoir. Alors, c'est peut-être pas les mots que j'utilise avec eux, mais c'est pour vous que je les utilise. Mais une sorte de plénitude. Une sorte de waouh, c'était un moment merveilleux. On ne sait même pas dire, il n'y a même pas les mots. C'était extraordinaire. Et je leur dis, à votre avis, racontez-moi un souvenir de moment merveilleux, justement, quand vous dites merveilleux, extraordinaire. Et immanquablement, ça va toujours être des expériences de une fête en famille, un câlin avec papa qui est revenu de son travail après 2 semaines d'absence. Ça va être une amitié qui se découvre. Enfin, ça va être des choses relationnelles. Enfin, il y a toujours la relation au cœur de ces moments forts de bonheur. Et inversement, si je leur demande, je le fais un peu moins parce que finalement, ça peut un peu plomber l'atmosphère, mais si je leur demande un souvenir vraiment négatif et horrible, ben, ça va être une trahison d'un ami, ça va être une parole très négative de leurs parents sur eux, ça va être
Une promesse non tenue, vous avez cet exemple
voilà,
dans
par
votre livre,
exemple,
voilà, le
voilà,
père qui dit
oui.
bon, ce week-end on va jouer au foot et puis en fait ça n'arrive
Et,
jamais.
voilà, et ben voilà, et ça touche aussi à la relation, c'est-à-dire que les plus grands moments de bonheur, c'est la relation, et les pires moments, c'est la relation, c'est-à-dire que rien n'est plus important dans notre vie humaine que la relation et l'amour. Voilà, donc ça, c'est facile à démontrer, et à partir de là, ils peuvent se dire, ah ben oui, mais si c'est si important que ça, que l'amour, il faut peut-être que je me calme en imaginant que ce qui rend heureux, et certains en sont convaincus, hein, ils sont mordus, et je vais peut-être pouvoir envisager que c'est pas l'argent qui va me rendre heureux. Mais il y a des enfants qui sont convaincus de ça, hein. C'est quand même fou.
Oui, Yaël.
Moi, je suis complètement aussi d'accord, d'autant plus qu'on est dans une société qui va vite, qui va très vite. On a des outils pour gagner du temps, mais on n'a plus de temps. Hein, si on regarde bien, on a plein de choses. Et je pense que nos jeunes, on a besoin aussi de les aider à s'arrêter. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on appelle un arrêt sur image. C'est quand les jeunes ont vécu quelque chose, que ça soit un temps spirituel, une visite, d'aller visiter la cathédrale d'Albi avec un témoignage, d'aller faire un pèlerinage, ou alors d'avoir une intervention sur de la prévention, sur l'ERS, sur l'addiction aux écrans, sur l'addiction à la drogue, etc. C'est après, c'est de leur permettre juste de se poser 2 minutes. C'est compliqué hein, pour eux, hein, mais et de dire alors, qu'est-ce que déjà tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé pendant cette intervention, pendant ce pèlerinage? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué profondément? Et puis souvent, moi j'aime à dire en un mot. Comment tu résumerais? C'est-à-dire, ce soir, tu as tes parents, tu as ton meilleur ami au téléphone. Eh bien, tu résumerais en un seul mot. Ça serait quoi? Et alors là, on est parfois bluffé parce qu'ils sortent effectivement. Et là, on est effectivement dans la relation, dans l'émotion. Et j'ai vécu quelque chose, c'est merveilleux, c'est unique, c'est sensationnel, c'est une dinguerie. Moi, je me souviens, on a eu un jour un frère dominicain qui vient préparer nos jeunes au sacrement. Et puis, il leur a montré un film sur un petit documentaire sur le Padre Pio. Alors, je veux dire, Padre Pio, c'est quand même... ouais. Et puis, le lendemain, je vois un des jeunes et je lui dis « Alors, comment c'était hier soir avec le frère ?» Et il me répond « Ah, Yaël, c'était une dinguerie avec le Padre Pio, mais c'était dinguerie. » Et ça voulait tout dire. Alors, ils n'ont pas toujours tous les mots. Et après, j'ai creusé un peu avec lui. Mais c'est important de leur faire prendre le temps de s'arrêter. Parce que même nous, en tant qu'adultes, on ne prend plus le temps de s'arrêter. Et ça s'apprend. Ça s'apprend.
Ça, je confirme tout à fait. Je peux, pour donner des exemples concrets comme les vôtres, c'est ici, dans ce petit collège, ce petit bijou de collège là, en Normandie, on a l'adoration tous les matins. Et il faut savoir que quand même, je dois avoir deux ou trois familles catho-pratiquantes en tout sur une centaine de collégiens. Et tous les matins, donc la première année, j'ouvrais la chapelle, il y avait trois pelins tendus par-ci, par-là, bon, c'était pas folichon, mais je n'osais pas exposer le Saint-Sacrement parce que j'avais bien mesuré à quel point les gens étaient à 20 000 années-lumière de tout ce qui est sacrement, et encore moins Saint-Sacrement, donc voilà. Et puis la deuxième année, le Seigneur m'a dit, mais tu te prends pour qui, frère Benjamin, tu penses que tu comprends mieux le Saint-Sacrement que tout le monde ou quoi. Et donc j'ai vraiment senti son désir que je l'expose vraiment dans l'adoration, que en gros ne me laissez venir à moi les petits enfants, c'est-à-dire ne m'empêchez pas de d'être là au milieu d'eux, même s'ils comprennent pas ce que c'est pas grave. Donc j'ai commencé à exposer le Saint-Sacrement. À partir de là, il a commencé à avoir des dizaines, aujourd'hui je dois avoir entre 40 et 60 élèves tous les matins à l'adoration pendant 10 minutes, un quart d'heure, qui sont là
avant
en silence
cours.
Et qui le réclament, qui disent que... Et à partir de là, d'ailleurs, il y a des tas de demandes de sacrement. Je dois avoir un tiers du collège qui demande un sacrement.
Exactement ça.
Donc, tout s'est passé là, dans l'intériorité. Et à chaque aumônerie, on a aussi 20 minutes, 20 bonnes minutes d'adoration. Et ils sont demandeurs de ça. Et quand je leur demande c'est quoi que vous préférez l'aumônerie, bon, il y a pour une part les pizzas ou les kebabs. Mais il y a pour... toujours revient aussi, ah non, mais moi, j'aime trop le moment là. Des fois, ils retiennent pas le vocabulaire que pourtant on s'évertue à leur donner. Mais ils disent, ah, j'aime trop le moment de la messe. Mais non, c'est pas la messe, c'est l'adoration. C'est la 15 fois que je vous le dis. Mais bon, bref, voilà, c'est en tout cas, c'est tant d'intériorités sont très précieux.
Je vous propose qu'on fasse une pause musicale, Yael Jean Blanc et frère Benjamin, et nous allons vous écouter, frère Benjamin, dans cette chanson « Même famille ».
Souviens-toi de ça. C'est bien parce que souvent tu n'oses que tu te sens là. Si tu trouves les autres embêtants, souviens-toi de ça. C'est parce que tu ne vois pas le fond de leur moi. Je prie le monde, je pleure et crie. Comprennent qu'un même sang qui pleure et crie coule dans nos veines, et que tous les gens sont une famille, et pourvu qu'on s'aime. Si l'humain te paraît abject, souviens-toi de ça. Jette d'ailleurs comme toi. Quand du coup il roule des mécaniques, souviens-toi de ça. C'est qu'il pense que l'amour se mérite, pourtant ce n'est pas le cas. Je prie le monde, je pleure et crie, que tous comprennent qu'un même sang écrit coule dans nos veines.
qu'on s'aime. Regard qui tue, qui terrorise, angoisse de vivre. Regard qui tue, qui crucifie le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. C'est là dans le regard, le goût de vivre. Tout est là, les yeux béats, l'ivresse de vivre. D'une même famille.
Présence. Église, Isabelle Duché.
Nous écoutions Même Famille, composée et interprétée par notre invité de Vivante Église ce matin, frère Benjamin, prêtre salésien, en direct de la Normandie. Et à mes côtés en studio, Yaël Jeanblanc, responsable animation, prévention et pastorale aux apprentis d'Auteuil. Yaël, vous vouliez rebondir sur cette soif des jeunes, sur leur besoin d'intériorité.
Oui, et je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'être audacieux dans ce qu'on propose aux jeunes sur leur quête spirituelle et ce qu'on leur propose de Dieu. Et moi, ça m'a fait penser à l'année dernière, on est parti donc avec l'aumônerie du Lauragais, de Villefranche-de-Lauragais, on a fait Saint-Jacques et Fatima. Donc on avait une quarantaine de jeunes, et c'est des jeunes, effectivement, certains ils ont une culture religieuse, mais d'autres ne l'ont pas, hein, et ils font une démarche de baptême. Je rejoins complètement le frère Benjamin, on a plus en plus de jeunes, même dans les aumôneries, qui demandent à faire leur baptême, alors que les parents ne sont pas du tout dans cette culture-là. Et donc nous sommes partis à Fatima. Alors moi, c'était la première fois, je découvrais. Et bon, et quand on arrive à Fatima, donc on leur fait le message, on leur parle des apparitions, etc. Et puis, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais il y a ce fameux chemin, parce que Fatima, la grâce de Fatima, c'est aussi la miséricorde, le pardon, la pénitence, mais il y a ce chemin de 300, 400 ou 500 mètres
que
de chemin des petits.
Genoux.
Voilà. Mmh. Et donc, on leur présente tout ça, et on dit un chapelet tous ensemble. On avait déjà dit aussi un autre chapelet avant. Et puis à ce moment-là, il y a des jeunes qui viennent nous voir en disant « Yaël, est-ce qu'on peut faire le chemin des pénitents à genoux ?» Alors moi je les regarde, j'étais étonnée. Je dis « Vous avez vu, c'est quand même… » « Ah oui, non, mais moi j'ai vraiment envie de le faire. » Et en fait, on n'avait pas du tout prévu de le prévoir, parce qu'en plus dans notre mentalité un peu française, c'est pas trop, on n'est pas exubérant, c'est plus espagnol, italien, ils sont plus faciles. Et eux, alors on a eu une quinzaine de jeunes qui ont fait ce chemin. Alors du coup, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'ils nous entraînent à leur suite. Parce que moi, je ne l'aurais jamais fait. Je vous le dis sincèrement, je ne l'aurais jamais fait. Et donc du coup, on a été deux animateurs à le faire avec eux. Et ben, je peux vous assurer qu'ils nous ont édifiés. Parce que moi, je peux vous assurer qu'au bout d'un certain temps, j'ai commencé à sentir les genoux. Parce qu'on sent bien, on fait un parcours à genoux. Eux, ils l'ont fait en entier. Ils ont continué à tourner autour de la petite maison d'apparition. Moi, je me suis arrêtée quand on est arrivé devant. Il y en a un qui m'a regardé, il m'a dit « Est-ce qu'on peut continuer ?» J'ai dit « Mais oui. » Et le soir, au moment du chapelet, on pouvait le refaire et des jeunes l'ont fait. Et il y a des jeunes vraiment qui m'ont dit « Mais Yaël, si tu savais le bien que ça m'a fait, parce que je l'ai fait pour telle personne, je l'ai fait pour moi, pour que je puisse davantage aimer Dieu. » Et j'ai vraiment eu cette certitude que Marie me tenait par la main. Et ça, moi, je me dis, il faut qu'on soit audacieux pour nos jeunes, ne pas avoir peur de leur proposer avec audace des choses qui vont leur faire goûter Dieu. Alors le Saint-Sacrement, je trouve ça super ce que le frère Benjamin a dit, et je crois qu'il faut, il faut pas avoir peur de leur faire goûter Dieu.
Frère Benjamin, dans votre ouvrage, vous avez de nombreux chapitres sur le mal-être des jeunes, la souffrance et toutes les difficultés qu'ils traversent. Vous avez notamment de très bons passages sur le suicide, où vous osez dire les choses. Et c'est vrai que la dernière enquête nationale réalisée auprès des collégiens et des lycéens, qui a été publiée le 9 avril 2024, révèle qu'un adolescent sur 7 présente de graves risques de dépression, une tendance plus marqué encore chez les filles. Alors, précisons cependant qu'ils sont 90% à percevoir leur santé comme bonne. Dans les établissements scolaires dans lesquels vous exercez l'un et l'autre, est-ce que vous retrouvez cette même proportion, Frère Benjamin?
C'est vrai que j'ai beaucoup été confronté à toute cette dimension de mal-être, plus quand j'étais en ville. Là, depuis que je suis à la campagne, les problématiques sont un peu différentes. Je suis moins confronté. Ça et là, bien sûr, mais plus anecdotique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment peu de vitesse vie citadine et vie à la campagne, la bonne campagne normande, avec d'autres
Elle est plus douce.
préoccupations. Voilà, c'est étonnant. J'ai quand même moins. Alors, il y a quand même une morosité ambiante, ça, c'est sûr. Après, j'ai pas trop d'élèves qui se scarifient, qui pensent au suicide, etc. Mais il y a quand même une espèce de morosité, ouais.
Oui, une souffrance,
oui.
Yael.
Oui. Moi, je pense que y a beaucoup de... On parle de tentatives de suicide, mais il y a tout ce qui est un peu à l'extérieur, ces choix de mort qu'ils font et qui sont des tentatives de suicide cachées. Et c'est vrai que... On fait le lien aussi avec ce qu'on a dit au début, les réseaux sociaux, et qui fait qu'effectivement, des jeunes qui se scarifient, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y en a beaucoup plus. Parfois, ils n'osent pas aussi l'exprimer. Et ils vont l'exprimer à travers un témoignage. Moi, je me souviens, on a fait intervenir Laurent Guay qui était venu donner son témoignage à Rachid L'Enfer. Et après, dans les billets anonymes, il y en a beaucoup. Moi, je me souviens d'un jeune qui était à côté de moi, qui ne voulait pas écouter son témoignage. Et puis d'un coup qui me regarde, qui me fait mais il est en train de raconter mon histoire. Et en fait, il se retrouvait. Et certains, en fait, ils se mettent des masques aussi par rapport à ça. Parce que quelque part,
ça les protège aussi.
Oui, exactement. Parce que la vie est plus forte que la mort en eux. Ça, c'est aussi une intime conviction que j'ai. La vie est plus forte que la mort. Alors bien sûr que la souffrance est là et nous, on a à être attentifs aux petits signes qu'ils peuvent nous donner, qui sont des petits signes de « je ne vais pas bien ». Et à ce moment-là, la question moi, que j'aime beaucoup leur dire souvent quand je vois, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est ce que Jésus pose. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi ? Et je pense que là-dedans, moi, j'aime beaucoup le petit prince de Saint-Exupéry. C'est « tu viendras chaque heure, chaque jour, à la même heure. Puis on apprendra à se connaître et tu m'approcheras un peu plus. » Et je crois que c'est important et c'est pour ça que être avec eux, partager avec eux à la fois leur joie, mais aussi leur peine, leur souffrance, c'est important. Et après, si on a une relation de confiance avec eux, ils vont pouvoir exprimer ce mal d'être de différentes façons. Ils vont peut-être pas pouvoir mettre des mots dessus, mais ça va se voir par rapport à comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils écoutent, leur vocabulaire. Et ça, il faut apprendre. Et ça, on peut le voir que si on prend du temps avec eux, être au milieu d'eux, c'est la pastorale et l'éducation salésienne. Hein, être au milieu des jeunes,
voilà.
J'aime beaucoup. Parce que voilà, j'aime beaucoup Don Bosco pour ça. C'est être au milieu des jeunes, avec eux.
Frère Benjamin, comment qu'est-ce que vous voulez dire pour rebondir? Et puis après, vous nous direz un peu comment vous vous exprimez aux jeunes qui vivent dans l'épreuve, ce que vous leur dites. Les accompagner.
J'avais un exemple qui me venait par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est beaucoup, donc aujourd'hui on a quand même énormément, et il paraît que c'est presque la moitié, mais alors du coup moi je ne sais pas si je récupère plus de gamins qu'à bosser qu'ailleurs, peut-être à cause du casting qui est fait par Don Bosco lui-même, par Saint Jean Bosco, mais alors, toujours est-il que j'ai très peu de jeunes issus de familles, j'ai envie de dire, normales, enfin... c'est-à-dire le père, la mère, les frères et sœurs, enfin tout va bien quoi. Il y a toujours un divorce quoi. Et alors il y a une chose qui m'a frappé, c'est que souvent quand les parfois même les parents eux-mêmes, par exemple en inscription, vont dire on est divorcé, mais tout se passe bien, hein, un peu comme pour nous rassurer. Et en fait, je me suis aperçu que les enfants eux-mêmes ont souvent entendu mais tout se passe bien. En mode, on est divorcé, mais enfin normal, quoi. Et un enfant arrivé surtout vers les âges collège, justement, c'est là que les choses commencent à se réveiller. L'espèce de douleur qu'on avait enfouie, et puis en plus, on n'a pas de raison d'avoir douleur puisque ça se passe bien.
Oui, on n'ose pas
Et
dire.
alors là, quand j'ai eu des échanges profonds dans mon bureau où le jeune explose en larmes. Parce qu'en fait, il est en train de prendre conscience que si, c'est ça le nœud douloureux de sa vie et que c'est pour ça qu'il déconne, excusez-moi l'expression, c'est pour ça qu'il fait pique-pendre, c'est pour ça qu'il met en péril sa scolarité, etc. C'est qu'en fait, il n'a pas avalé, il n'a pas supporté le divorce de ses parents et que non, c'est pas si normal que ça.
Et comment
Il
vous
s'est
faites pour les
habitué.
accompagner? Parce que la situation, elle ne peut pas changer. Voilà, le divorce est prononcé
Ouais.
et la séparation est actée. Et comment vous faites pour qu'ils vivent avec cette souffrance-là?
Eh bien, c'est toujours pareil, c'est déjà tout ce processus de reconnaissance,
Oui.
d'admettre que, en fait, non. Pareil, hein, moi j'ai vécu ça aussi d'ailleurs, puisque j'ai grandi sans père. Et en fait, souvent, on a un petit peu pitié pour les enfants qui grandissent sans père. Mais pendant l'enfance, hein, pendant la tendre enfance, ça nous on n'en souffre pas. C'est vraiment à l'adolescence qu'il y a des choses qui se réveillent, il y a des
Oui.
mal-être qui se réveillent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne fait même pas forcément le lien, puisque jusqu'à présent, on ne souffrait pas de l'absence du père, puisqu'en fait, on n'avait pas été habitué à sa présence. Donc, c'était un hors sujet. Et voilà, et donc la première chose, c'est de se rendre compte que, ah ben si, en fait, ça a un impact sur nous, beaucoup plus qu'on imaginait. Et donc, de se plonger, d'oser voir ça en face, de le prendre à bras le corps, etc., bien accompagné, bien sûr. Donc ça, c'est une première étape. Reconnaître le mal subi. Enfin, voilà. La deuxième étape, c'est eh ben, de l'accepter, de ce processus, cette fois, un peu comme dans le deuil, d'acceptation que c'est ainsi, pas autrement, et que c'est avec ça que je vais me construire. Et la troisième chose que je rajoute, mais alors, c'est des étapes, vous avez bien compris que je balance pas tout ça au
Oui.
premier rendez-vous, c'est de se réjouir. Alors ça peut paraître fou, mais c'est profondément évangélique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'évangile ne cesse de clamer que heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs brisés, heureux ceux qui pleurent. Pourquoi la parole de Dieu insiste autant sur ce paradoxe? C'est parce qu'en fait, c'est dans cet accueil inconditionnel de notre béance, de notre blessure, de nos brisures, que se déploie une vitalité, alors qui viendra même pas forcément de nous, mais qui viendra de Dieu. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est on se reconnaît, on s'accepte vulnérable, qu'en fait il va se déployer plein de choses à travers nous. Et de fait, là je suis peut-être très théorique quand je dis ça, mais je vous donne une traduction concrète. C'est tout simplement que souvent des gens qui ont vécu justement des blessures, des brisures, etc., vont être les gens qui attirent le plus de confidences eux-mêmes, qui vont se trouver les mots justes pour quelqu'un à côté d'eux qui souffre. Donc en fin de compte, ils vont en faire une force, un avantage. Voilà, c'est pour ça que je dis se réjouir. C'est qu'en fait, de ces plaies, le bon Dieu va en faire quelque chose, enfin, nous allons faire quelque chose avec la grâce de Dieu.
Hey, Gaëlle.
Et oui, moi je rajouterais aussi que par rapport à ce cheminement, quand il y a des blessures, notamment vis-à-vis du père et de la mère, parce que ce sont nos racines, hein, qu'on le veuille ou non, ces jeunes, on a tous besoin de nos racines et que parfois c'est chaotique pour eux. Je pense aussi que, en tout cas, moi je m'appuie aussi beaucoup, même, enfin c'est sûr que il faut aussi que ces jeunes aient un peu une relation, enfin une foi, mais moi, même s'ils n'ont pas la foi, je leur dis, tu sais, est-ce que tu... Il y a Marie et Joseph. Ce sont des figures pour les jeunes, en tout cas qui ont un peu, qui sont en quête de Dieu, même s'ils n'ont pas de culture religieuse, sont des figures qui peuvent être vraiment venir les réconcilier avec cet état de fait. Je rejoins ce que le frère Benjamin a dit avant. Il faut accepter, il faut aussi savoir quelque part rendre grâce. C'est ce qui fait de tout ce que tu as vécu jusqu'à ce jour, fais ce que tu es aujourd'hui. Ça, c'est important. Et après, ben, effectivement, il y a une figure de Saint Joseph, il y a une figure de la Vierge Marie. Et nous, on a un jeune qui avait fait une prière à Saint Joseph. Il avait fait tout un texte. Et je l'ai là devant moi. Ça m'a fait penser quand le frère Benjamin parlait. Et je trouve que c'est vraiment. Il y a un passage où il dit, prends ma main, donc c'est par rapport à Saint Joseph, hein, prends ma main et conduis-moi lorsque l'ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est.
Wow.
Alors, c'est pas que ça, mais rien que ça. Et moi, ça me touche beaucoup parce que là aussi, il faut oser. Il faut oser et il faut croire. C'est notre foi. Il faut croire que l'histoire de chacun est une histoire sacrée et qu'elle a du sens et qu'après, elle peut aussi, les personnes qui sont déjà au ciel et Saint Joseph et la Vierge Marie, la Sainte Famille, est vraiment un modèle aussi qu'il faut oser leur proposer et en qui ils peuvent trouver leur refuge.
Pour terminer, frère Benjamin, est-ce que vous vouliez avoir un petit mot de conclusion sur notre échange?
Eh bien, ce sera un mot qui résume ce qu'on vient d'échanger, mais finalement qui résume très bien mon livre aussi. C'est, je ne sais plus qui c'est, mais c'est « Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière ». Voilà, ça résume bien. « Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière ». Et c'est ce conte des deux vases que je mets dans le livre où un vase percé se désole d'être percé. Et puis en fin de compte, il s'aperçoit que grâce à au fait d'être percé, il a arrosé tout un parterre de fleurs.
Merci beaucoup. Merci frère Benjamin, prêtre salésien, directeur de collège en Normandie. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « L'espoir est une force ». Petit manuel pour trouver la lumière quand tout va mal chez Arthège. Un livre à laisser traîner dans les endroits où passent les jeunes. Et puis merci aussi à vous, Yael Jeanblanc, responsable de l'animation, de la prévention et de la pastorale aux apprentis de Teuil et à l'aumônerie en région toulousaine.
Merci à vous, avec joie.
Merci. Merci.